Le métier de brasseur est au féminin. Et c'est le seul métier qui est au féminin dans l'ensemble des métiers qui sont évoqués sur ce code d'Hammurabi.
Sur le comptoir de Lisanne, c'est le podcast dans lequel on parle de la bière autour d'une bière. Chaque semaine, je rencontre un ou une invitée avec qui j'explore la bière dans tous ses styles, ses influences, son évolution, son histoire et sa culture. Je suis Lisanne Desroches, brand ambassadrice Ninkasi, et cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Elisabeth Pierre pour une série de 3 épisodes sur la place des femmes dans la bière. Elisabeth est zytologue, auteure du guide Hachette et de livres sur la bière, éditrice du magazine Bière et Mai et formatrice. Dans ce premier épisode, nous allons parler de la symbolique de la femme dans la bière depuis la nuit des temps. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Lisanne.
Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle série de podcasts Ninkasi.
Avec grand plaisir.
Alors pour cette nouvelle série, nous allons évoquer les femmes dans la bière. Je sais que c'est un sujet qui t'est cher à toi Elisabeth.
Tout à fait.
Mais avant de commencer ce sujet, j'aimerais savoir comment es-tu tombée dans la bière ?
Alors c'est une tellement longue histoire, je vais essayer de la raccourcir, mais je vais faire très court. C'est une histoire qui remonte en fait à mon enfance, hein, curieusement, parce que quand j'étais au collège à Sochaux, à l'époque il y avait une brasserie en face du collège. En face de mon collège, il y avait la brasserie de Sochaux. Et cette brasserie, je l'ai visitée un jour avec ma classe tout simplement, et j'en avais perdu la mémoire jusqu'à ce que je rentre dans la bière des années plus tard. Et tout m'est revenu de façon très soudaine, et très rapide et très fulgurante au moment où j'ai visité ma première brasserie. J'étais donc rentrée dans la filière brassicole au moment du renouveau de la bière artisanale justement. Et pourquoi ça a été un flash et une fulgurance ? Parce que les odeurs me sont revenues, les odeurs de malt chaud, de la salle de brassage, les odeurs de la salle de fermentation. Il faut savoir que la brasserie de Sochaux, c'était une grosse brasserie, avec une salle de brassage en cuivre tout à fait gigantesque et impressionnante, et des cuves de fermentation ouvertes, parce qu'à l'époque, c'était encore donc les lagers en fermentation ouverte, mm-hmm. Les cuves Gruyère. Et ces odeurs étaient tout à fait fortes et tout à fait particulières. Et puis la vision aussi des hautes mousses, ce qu'on appelle les hautes mousses, c'est-à-dire le Kreuzen qui se forme en surface de ces cuves. C'est tout à fait impressionnant quand on n'a même pas 10 ans.
Mmh, hein. J'imagine.
Voilà, j'étais dans ce souvenir-là quand j'ai remis les pieds dans une brasserie, donc des années après. Et alors, ce qui fait que je suis tombée dans la bière, c'est peut-être le fait que chaque fois que je rentre dans une brasserie, et c'est encore arrivé donc tout à l'heure, à Tarare, mm-hmm. eh bien, je retombe dans l'enfance. Et j'ai cette chance de faire un voyage dans le temps et dans l'espace à chaque fois que je rentre dans une brasserie et que je sens cette odeur de malt.
Finalement,
et que
pour toi,
je rentre dans une salle de fermentation.
C'est un peu ta Madeleine de Proust.
C'est ma Madeleine de bière, oui, tout à fait, absolument. Donc finalement, je suis tombée dans la bière totalement par hasard et je n'en suis jamais ressortie tellement c'est un bonheur au quotidien et c'est un plaisir et c'est une passion surtout.
Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire avec nous. Alors on va s'attaquer à notre sujet qui est la place des femmes dans la bière et on va revenir un petit peu en arrière pour conter un petit peu cette histoire. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la bière est associée à la virilité en ce moment. Enfin en tout cas, il y a quelques années, c'était encore le cas. Mais on va remettre un petit peu l'église au centre du village et rappeler que les femmes sont intimement liées à la bière depuis des millénaires.
Ben, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est une image qu'on n'a pas forcément au niveau du public. Souvent, la bière est associée effectivement au foot ou à d'autres images liées plutôt aux hommes, alors que dans la réalité, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait l'inverse. Surtout dans l'histoire, aussi loin qu'on remonte, on est face à des figures féminines. On est sur un espace qui remonte, enfin plutôt un temps qui remonte à plusieurs millénaires. Et si on remonte même aux sources de la bière, là les dernières recherches nous ramènent aux Natufiens, mais pour aller dans les dernières visualisations féminines, hein, donc on est en Égypte ancienne et en Mésopotamie au niveau des écrits. La brasseuse est au centre de cet univers de fabrication. Il y avait certainement pas que des femmes, il y avait peut-être aussi des hommes, mais en tout cas, j'ai en tête une évocation des cités-états, de Mésopotamie, où les femmes sont des équipes de brasseuses. Les femmes constituent des équipes de brasseuses et on retrouve déjà à cette époque-là, donc on est à 4000 environ avant Jésus-Christ, et on est sur une vision de la bière déjà avec un statut social. Donc on n'a pas les mêmes recettes de bière en fonction des strates en fait sociales, hein. Tout dépend du volume de grains qu'on met dans la recette. Et là, pour le coup, si on s'occupe, par exemple, des équipes de brasseuses qui sont dédiées à la famille royale dans la cité-État, ce ne sont pas les mêmes équipes de brasseuses qui vont, par exemple, brasser les bières pour, par exemple, le personnel ou pour les autres populations qui vivent dans cette enceinte de la cité-État. Et ce sont des équipes de brasseuses. Et les brasseuses sont également associées et à côté des femmes qui font le pain. Et il y a des métiers à chaque fois différents. Il y a celles qui servent, il y a celles qui fabriquent, donc, et il y a celles qui vont veiller à ce que tout se passe bien. Aussi, il y a les sortes de contrôleuses, on va dire, de tout ce qui se passe. Donc, juste sur cette époque-là, à cet endroit-là, on a déjà une richesse de ce métier qui est quasiment, pour le coup, exclusivement féminin dans ces circonstances-là. Et on a aussi un autre... Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sources archéologiques qui nous aident à témoigner de cette présence féminine, hein. Mais on a notamment le Code d'Hammurabi. Le Code d'Hammurabi, c'est un roi mésopotamien qui est l'un des premiers législateurs, on va dire, à avoir érigé tout en règle et en obligation, on va dire. C'est pas mal lié, d'ailleurs, déjà à la fiscalité. Et on a tout un chapitre sur... le brassage, la commercialisation de la bière et le service de la bière. Et en ce qui concerne le brassage, le métier de brasseur est au féminin. Et c'est le seul métier qui est au féminin dans l'ensemble des métiers qui sont évoqués sur ce code d'Hammurabi.
Donc finalement, on s'éloigne un petit peu de ce qu'on pensait aussi, que le brassage est une tâche domestique qui est faite à la maison. C'est une bouillie de céréales fermentées qui est très liée à la fabrication du pain. Donc c'était les femmes qui le faisaient. Mais finalement, déjà très tôt, il y a une forme de corporation qui s'est installée et on n'est pas simplement à un brassage amateur à la maison.
Oui, alors j'ai lu un peu pas mal sur cette image de la fabrication domestique réservée aux femmes et dès lors que ça sort de la maison, c'est tout d'un coup une activité masculine. Donc j'essaie de lutter contre ça parce qu'effectivement les sources historiques, la littérature historique, archéologique surtout, nous prouvent le contraire. Donc ça c'est tout à fait certain que c'était un métier déjà à cette époque-là. Et dans différentes civilisations, on retrouve aussi ces faits permanents, hein, marquants, de recettes de bière qui sont transmises de brasseuse en brasseuse.
Alors, au-delà d'un métier, c'est aussi une très forte symbolique, la bière, à cette époque. Elle est issue de la terre, des céréales, de l'eau, les saisons. Elle est très associée aussi à la fécondité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement toute la symbolique derrière la bière ?
Cette symbolique, elle est fascinante, elle est extraordinaire parce que, comme tu dis, c'est lié aux saisons, c'est lié à la nature, à la fécondité, la Renaissance. Les déesses ont joué et jouent toujours un rôle important dans toutes les civilisations, quel que soit l'endroit sur la planète. On a des déesses qui sont liées à la bière, à cette boisson donc fermentée à base de céréales la plupart du temps, et qui ont donc sous des noms divers, des activités diverses et auxquelles on rend hommage et auxquelles on est très lié dans l'acte même de production de la bière. Et donc c'est vrai qu'on parle souvent de Sumer, de la Mésopotamie, ensuite de l'ancienne Égypte. On va par exemple se référer aussi à la plus ancienne épopée, en l'occurrence l'épopée de Gilgamesh, qui au-delà de ce texte fascinant, évoque un chapitre entier avec Siduri, donc qui est la figure qui apprend le brassage en fait à Gilgamesh. Et bien sûr, dans cette littérature ancienne, on a bien sûr l'hymne à Ninkasi, qui est un fabuleux poème et avec des strophes entières sur la fabrication de la bière également. Et Ninkasi, c'est littéralement la dame qui emplit la bouche. Et on a l'équivalent avec Siri, qui est en fait la déesse de la bière également, en acadien, et qui veut dire fermentation. Donc on a ce lien absolument très ancien et très étroit entre la notion de céréales, donc de grains qui poussent de la nature à une saison particulière et qui meurent en étant cueillis, finalement. Cette notion de fermentation et cette notion de fabrication qu'on va voir qui va jamais s'arrêter au fil des siècles.
Alors, on a parlé de cidurie, tu as évoqué donc les céréales, il y a également donc Cérès qui est très lié à ça chez les Gaulois. En Égypte, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est aussi un très grand pays de bière à l'époque, et les femmes étaient déjà très présentes, notamment dans toutes les scènes de brassage qu'on peut retrouver représentées. Elles ont, il y a également des déesses chez les Égyptiens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'Égypte ancienne et de son lien et de la symbolique de la bière chez eux?
Oui, alors la symbolique de la bière, en fait déjà on a la bière qui est une boisson aliment déjà, hein, en dehors du fait que c'est la bière aussi valeur de travail, les travailleurs étaient payés en bière quasiment, hein, donc mais pour en revenir aux femmes, on a avec Isis par exemple, on a cette proximité de la déesse la plus connue avec cette ce lien avec l'orge, hein, avec le grain, toujours, et encore une fois qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Et cette symbolique, elle est à la fois dans la Renaissance en termes de fécondité, de naturalité, puis elle est aussi dans la notion de Renaissance au-delà de la mort, hein, puisque c'est la boisson qui accompagne au-delà de la mort, en fait, les défunts dans l'autre vie. Il fallait vraiment qu'ils aient à boire aussi pour aller jusqu'à l'au-delà. Hein. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais
oui,
voilà. Donc on revient aux femmes. Et tu parlais de Cérès. Moi, je pense du coup à son équivalent grec qui est Déméter et qui est cette symbolique liée justement au rythme des saisons. Hein. Donc on a le mythe de Déméter, qui est en fait la déesse des céréales et de la nature, qui va réapparaître justement au beau jour, hein, alors que l'hiver, elle était avec Hadès, son époux, hein, qu'elle avait suivi dans les enfers. Et donc, on a toute toute la mythologie. Donc là, on parle de mythologie, qu'elle soit égyptienne, sumérienne, grecque ou latine, mais on a la même chose dans les autres cultures, les autres civilisations, qu'elle soit inca, qu'elle soit finlandaise, nordique, africaine, nord-américaine.
On en retrouve partout, c'est vrai que tu le mentionnes. Donc chez les Slaves et les Baltes, il y a Ragutien qui est également une personnalité féminine attachée à la bière. Les Finlandais ont la légendaire Kalevatar qui a fait le don de la bière en mélangeant du miel à de la salive d'ours. Donc vraiment, là, on est sur des peuplades très éloignées de la Mésopotamie. Et pourtant, encore une fois, la bière est associée à la femme.
C'est ça, c'est le grain qui est source de vie et donc la femme qui est source de vie. Donc il y a un lien très très étroit. Cette symbolique, on la retrouve au fil des siècles de façon très permanente jusqu'à nos jours, hein, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, et on y revient aujourd'hui. Je parlais de boissons aliments tout à l'heure. On trouvait dans les années 50-60 des bières de nourrice, des bières de famille bien sûr, mais des bières de nourrice. Et ces bières de nourrice, c'était tout simplement des bières qui avaient un taux d'alcool très très léger, bien sûr, mais qui avaient un fort caractère maltais, puisque la croyance populaire voulait qu'on croit qu'effectivement, la boisson maltée peu alcoolisée avait ce pouvoir galactogène. Alors, je me souviens, quand je suis rentrée dans la brasserie française il y a quelques années de ça, je m'étais attachée à ça, et j'avais trouvé un chercheur de l'INRA qui était d'accord pour vérifier ça, parce que la croyance populaire, c'est une chose, et puis ça marche, hein, on peut témoigner. Mais là, clairement, que à la fois quand on est en situation d'allaiter, c'est clair que boire de la bière sans alcool, c'est pas du tout inutile. Mais ce chercheur de l'INRA a vérifié cela d'un point de vue scientifique. Alors bon, bien sûr, là, on sort de l'univers des femmes, donc je ne dirai pas plus, puisqu'il a fait bien sûr les études sur les brebis. Mais ça vient tout simplement du bêta-glucane du malt, en fait. Hein, ce pouvoir galactogène viendrait du bêta-glucane du malt.
Si on en revient un petit peu à l'Antiquité, finalement, pourquoi expliquer que la bière soit très associée à la femme et non pas le vin, qui est quand même un produit très naturel aussi, qui vient de la nature, d'un fruit, et pourtant, le vin est plutôt associé à une personnalité masculine?
Dionysos,
Bacchus.
Alors, c'est vrai que les figures féminines, que ça soit les déesses ou les grandes figures féminines historiques, je pense à Hildegard de Bingen par exemple, et je pense aux grandes figures féminines jusqu'à aujourd'hui, qui sont présentes dans les salles de brassage. Mais pour en revenir à l'histoire, je pense que c'est lié à vraiment cette notion de cuisson du grain, et de fermentation. On a cette proximité, la bière, boisson aliment, mais pas liquide. On a cette proximité entre le pain et la bière. En Égypte, le zétome, c'était en fait, en Égypte, donc l'époque hellénistique, on était sur une, et même avant, on était sur une fabrication de pain d'orge relativement peu cuit pour avoir à l'intérieur conserver les enzymes et le levain actif. Et donc, on faisait très peu cuire ces pains d'orge qu'on émiettait ensuite dans de l'eau après quelques jours dans les jarres pour la période de fermentation. Ce liquide était bu donc avec des pailles. Hein, on a toutes ces représentations de femmes brasseuses et consommatrices aussi, bien sûr, de bière, avec ces chalumeaux, d'une certaine manière. Et on a donc en parallèle cette base, de cette source de la bière qui est le pain, en fait. Hein. Et c'est la toute la différence avec le bouilli des Celtes, par exemple. On n'est pas du tout sur les mêmes symboliques, du coup, de cuisson. Mais on retrouve aussi, bien sûr, les mêmes thématiques féminines, les mêmes figures féminines qui sont présentes. Donc, je l'explique par cette proximité avec le pain. Les hommes étaient donc beaucoup plus occupés et organisés sur des métiers liés à la chasse, à l'élevage, à tout ce qui touche les animaux et la construction et tout un ensemble d'activités de ce type. Mais la fabrication du pain était réservée aux femmes, était vraiment dévolue aux femmes. Et c'est resté longtemps ainsi.
Alors, tu as mentionné Saint-Hildegarde juste avant, et on terminera là-dessus. Alors, Saint-Hildegarde, on n'est pas sur une déesse, mais c'est une sainte quand même. Et à sa manière, non pas avec le grain, mais avec un autre ingrédient, elle a contribué à l'essor de la bière.
Alors oui, elle a joué un rôle certain au Moyen-Âge. Là, on est dans les années 1100 et quelques. Il faut se situer à cette époque où on est quand même on est en Allemagne, on est dans un monastère, elle dirige une abbaye, elle est abbesse en fait, hein. Et elle est également botaniste, elle connaît les plantes, et on a tout ce savoir-faire qu'elle apporte à ce moment-là et qui est consigné dans tous ses écrits. Elle a écrit énormément sur différents sujets, et dans un de ses ouvrages, Elle évoque notamment le rôle qu'elle a découvert en tant que brasseuse et botaniste, le rôle du houblon en tant que plante conservatrice aidant à la conservation de la bière et en tant que participant à limiter les infections dans la bière. Donc, il n'est pas écrit concrètement et précisément que le houblon est indispensable pour, mais il est écrit qu'effectivement le houblon joue un rôle non négligeable à ce niveau-là dans la bière. Et Hildegarde de Bingen est une figure féminine très, très parlante aussi, qui revient très, très tendance aussi de nos jours par rapport au retour à la connaissance sur les plantes, tout ce qui va toucher les propriétés liées au bien-être, on va dire, que peuvent avoir les plantes. Donc on relie avec plaisir Hildegarde. Oui.
Merci beaucoup Elisabeth.
Merci Lisanne.
On se retrouvera très vite pour continuer cette fabuleuse aventure des femmes dans la bière.
À très très vite.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Sur le comptoir de Lisanne, un podcast Ninkasi Stories. Dans le prochain épisode, nous allons parler des premières businesswomen du Moyen-Âge, les Hellwives. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout de partager cet épisode avec un ou une amie que cela intéresserait. Je compte sur vous. À la prochaine !